السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله على بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح
la norme de justice et d'équité qu'Allah a enjointe aux musulmans de respecter est inexistante dans toute autre écriture religieuse. Or, malheureusement, aujourd'hui, à tous les niveaux, un nombre important de parmi les musulmans, parmi lesquels se trouvent les leaders musulmans ainsi que les ulémas musulmans, un nombre important de tous ces musulmans ne respectent pas toutes les exigences de la justice. De même, au sein des foyers, parmi les musulmans ordinaires, l'on ne respecte pas généralement dans les affaires quotidiennes la norme de justice qu'Allah l'Exalté préconise, la norme de justice qu'il souhaite voir chez le croyant. Lors des conflits conjugaux, et les hommes et les femmes, souvent, s'intentent des procès en présentant des faits irréels. L'on a recours à des faux témoignages. L'on a recours aux mensonges pour usurper les droits d'autrui ou pour avoir gain de cause frauduleusement. Ainsi, beaucoup se détournent de la vérité parce qu'ils croient avoir raison ou pour priver autrui de ses droits. Pour atteindre cet objectif, ils ont recours aux mensonges et ils trompent aussi les tribunaux à ce propos. En certains lieux, les juges, pour leurs intérêts personnels, rendent des verdicts inéquitables. Ainsi donc, le système en soi est corrompu. En tout cas, les maux ne cessent de se répandre dans la société en raison de ces injustices. Ensuite, au niveau national, les dirigeants ne sont pas équitables et ne respectent pas les exigences de la justice. Ils ne sont pas justes envers leur population. Ils ne sont pas justes d'ailleurs dans leurs relations avec les autres États. Les ulémas, quant à eux, ont fait de la religion leur fonds de commerce. Et les musulmans affirment qu'ils sont le meilleur des peuples et que l'islam est la religion qui pourra présenter la meilleure des solutions aux problèmes de ce monde. Certainement, les musulmans sont le meilleur des peuples. Ils sont le meilleur des peuples s'ils respectent les injonctions divines et s'ils mettent en pratique les enseignements du Saint-Coran. Certainement, l'islam présente au monde la solution à tous ces problèmes, à condition que l'on respecte la justice et la vérité en accord à ses préceptes. Les versets que j'ai cités sont tirés de trois sourates différentes, de la sourate Al-Nisa, Al-Maïda et Al-A'raf. La traduction du premier verset qui est tiré de la sourate Al-Nisa est comme suit. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou contre vos proches parents, que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Ce commandement préconise le respect de la justice à la fois dans le cadre personnel et au niveau de la société. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la situation, l'on se cramponnera fermement à la justice. Les croyants ont reçu l'ordre de témoigner pour la cause d'Allah en toute équité. Et ceci est possible quand on porte en Dieu une foi qui est tout à fait parfaite. Il faut que la norme de la foi soit excellente il faut que cette foi soit ferme. Il faut que l'on soit déterminé à être juste, quelles qu'en soient les circonstances. Et cette fermeté existera, cette fermeté se dévoilera quand on sera prêt à témoigner contre sa propre personne, lorsqu'on sera prêt à témoigner aussi contre sa femme et ses enfants, d'être prêt à témoigner contre ses parents si cela est nécessaire, et d'être prêt à témoigner contre ses proches aussi. Ce verset stipule que l'assouvissement de vils désirs écarte de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, les conflits gangrènent la société tout simplement parce que l'on ne respecte pas la norme de justice exigée par Allah l'Exalté. Se défendre avec l'aide de subterfuges est aujourd'hui une pratique qui est courante. Il est fort malheureux de constater que certains des nôtres, sous l'influence du matérialisme et de ce bas-monde et de cette société, en dépit d'avoir prêté allégeance au Messie premier Islam, eh bien, certains des nôtres ont recours à ces contre-vérités. Allah l'Exalté, quant à lui, nous interdit le recours à des paroles ambiguës, même si nos intérêts ou ceux de nos parents sont lésés. Il ne faut jamais, en ces cas, avoir recours à des paroles ambiguës. Il ne faut pas non plus donner l'impression que l'on use de subterfuges afin de cacher la vérité et que l'on tente d'éluder de vrais témoignages. Pareilles actions sont monnaie courante de nos jours. Par exemple, lorsqu'il s'agit des conflits conjugaux, dans nombre de cas présentés à la Qada, l'on a recours au mensonge. Dans les affaires d'argent aussi, on cache la vérité. D'aucuns, quoique détenteurs de savoirs religieux et qui rendent apparemment de grands services à la religion, sont coupables de pareilles indignités, engendrant chez autrui de grosses inquiétudes. Comment ces gens, qui sont apparemment de grands érudits et qui exercent une bonne influence sur autrui, peuvent-ils énoncer de tels propos, se demande-t-on. Allah affirme qu'il ne faut point cacher la vérité, même si elle est contre ses propres intérêts, celui de ses parents ou de ceux qui sont apparentés de sang. Ces gens-là cachent la vérité afin de respecter leurs liens d'amitié ou pour leurs propres intérêts personnels. Ils ont recours à des propos ambigus ou évitent de porter de vrais témoignages. Et ils se préparent très bien à l'avance pour étayer leurs arguments. Ils savent quoi faire pour se sortir d'affaires et quels sont les raisonnements à mettre de l'avant si tout éclate au grand jour. Or, n'oublions pas qu'Allah est pleinement au courant de ce que nous faisons et que nous ne pouvons pas tromper Dieu. On ne pourra jamais tromper Dieu. On pourra, certes, pour quelque temps, profiter des avantages de ce monde, tout comme l'affirme Allah l'Exalté. Or, même si nous arrivons à éviter son châtiment ici-bas sur terre, nous serons certainement attrapés dans l'au-delà. Le registre de toutes nos actions, de toutes nos œuvres, sera devant Dieu, et celui-ci est au courant de toutes nos actions. L'imam que nous avons accepté a suivi ses commandements coraniques pour laisser des exemples qui rendaient bouche bée les autres. Un récit nous vient de sa jeunesse, à l'époque où il ne s'était pas encore proclamé Messie et Mahdi. Le Messie promis à l'Islam était assigné à comparaître au tribunal lors d'un litige entre son père et ses agriculteurs. Et dans le respect des exigences de la justesse et de la justice, le Messie promis à l'Islam a dit la vérité. Les agriculteurs ont eu gain de cause et son père a perdu le procès. L'avocat du Messie promis à l'Islam lui avait demandé de répéter la déclaration qu'il lui présentait, au cas échéant, il serait perdant. Mais le Messie promis à l'Islam a quant à lui insisté qu'il allait dire la vérité et toute la vérité. En tout cas, le verdict du juge était en faveur des agriculteurs. Selon les témoins de l'affaire, le Messie promis à l'Islam retournait tout joyeux après avoir perdu le procès. Il était si joyeux que ceux qui ignoraient le verdict auraient cru qu'il avait gagné le procès. Le Messie promis à l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le Messie promis à l'Islam que nous avons accepté, nous a présenté cet exemple. Nous devrons, quant à nous, analyser chacun de les témoignages en le prenant pour exemple. Il y a un autre exemple qui nous vient des pays occidentaux. Beaucoup dans ces pays cachent leurs revenus actuels afin de payer moins d'impôts. D'autres trompent l'État afin de recevoir des aides de l'État. Or, face à la situation économique désastreuse du monde, les États des pays développés sont en train de tout scruter à la loupe. Là où ils ont des doutes, ils mènent une enquête. Ainsi donc, les Ahmadis doivent éviter de ternir leur image et de ternir l'image de la Jamaat. Qui plus est, dans le but de plaire à Allah l'Exalté, ils doivent être prêts à endurer des pertes matérielles et ils ne doivent pas cacher la réalité, ils doivent toujours dire la vérité. Si l'on a de bonnes intentions, eh bien, l'on doit porter des témoignages avec justice pour la cause d'Allah. Et l'on doit aussi énoncer des vérités franches. Si on agit de la sorte, eh bien Allah l'Exalté, qui est le Rab, qui est le pourvoyeur, eh bien Allah l'Exalté comblera les besoins et bénira les provisions de cette personne. Ainsi donc, nous devrons constamment nous analyser. Si nous ne tentons pas d'atteindre cette norme requise dans la justice, eh bien, nous ne pourrons pas préserver la paix de nos foyers, nous ne pourrons pas non plus préserver la paix de ces sociétés où nous vivons. Nous ne pourrons pas préserver la paix de notre entourage. En négligeant ce commandement, la relation entre les membres de la Jamaat va s'effriter. Les fausses déclarations et l'injustice de certaines personnes atteignent un seuil qui nous laisse bouche bée. À titre d'exemple, des pères de certaines jeunes femmes m'ont informé que si leurs filles se sont divorcées, eh bien leurs ex-beaux-parents s'en vont colporter des mensonges à leur encontre. Dans ces familles où elles tentent de se marier de nouveau, ils tentent, ces anciens beaux-parents, de ternir l'image de la jeune femme. Des parents de certains jeunes hommes se plaignent auprès de moi que les parents de leur ex-épouse tentent de les diffamer. Ils les accusent afin de briser leurs nouvelles alliances ou ils tentent de leur mettre les bâtons dans les roues. C'est là un comportement des plus dangereux, Ce comportement peut détruire la paix de la société, c'est un non-respect de son engagement. Cela signifie s'éloigner des commandements d'Allah l'Exalté. Allah l'Exalté nous a accordé la faveur de pouvoir accepter l'imam de l'époque. Il nous a offert l'occasion d'être des frères. Or, pour nos intérêts personnels, ou en raison de notre inimitié, ou en raison de notre égoïsme, ou dans le but de se venger, nous partons si loin que la crainte de Dieu disparaît complètement de nos cœurs. Si quelqu'un s'est senti lésé, et si l'affaire est close, il doit se détourner du coupable et il doit ainsi laisser l'affaire entre les mains d'Allah, Allah qui connaît tout. Le bonheur du croyant réside dans le fait qu'il laisse tout entre les mains d'Allah l'Exalté. Après avoir enjoint au croyant d'être juste et véridique au sein de sa société, dans ses affaires personnelles et nationales, Allah lui recommande aussi de faire preuve d'un grand sens de justice, en particulier à l'égard de ceux qui appartiennent aux autres nations. Si l'on ne fait pas montre d'une grande équité à l'égard de ses ennemis, eh bien, l'on ne marchera pas sur les voies de la taqwa. J'ai cité le verset 9 de la sourate Al-Maïda, et la traduction de ce verset est comme suit. Allah déclare, « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. » Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété, et craignez Allah, assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Lors des débats religieux, les suivants de certaines religions commettent des excès. En pareille circonstance, il ne sied pas un croyant de se venger de la même manière. Il ne sied pas un croyant de léser les exigences de la justice. Le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a prodigué des conseils à ce sujet. Il en a prodigué lors d'un de ses darsa. À l'époque, en Inde, les hindous tourmentaient les musulmans sur leur lieu de travail et les poussaient au licenciement. En pareille circonstance, conseillait-il, ils ne sied pas aux musulmans de leur rendre l'appareil. C'est là qu'ils pourront respecter cet enseignement en tant que croyants. Il incombe aux croyants de respecter la justice et d'avoir recours à la taqwa, et de laisser ses affaires entre les mains d'Allah, Allah celui qui connaît tout. Il incombe aux croyants véritables de suivre les commandements de Dieu fermement et de ne point être négligents à cet égard. Pour être un musulman modèle, il incombe aux croyants d'agir uniquement pour la cause de Dieu. C'est là le signe d'un véritable croyant, d'un véritable musulman. Porter témoignage avec justice signifie suivre à la lettre les préceptes de l'islam. Suivre à la lettre les préceptes de l'islam au point où l'on sert d'exemple aux adeptes des autres religions, et que l'on soit un exemple pour la société et pour les autres nations. Loin de servir d'exemple pour les autres nations, les musulmans sont critiqués en Occident pour leur injustice. Les Occidentaux disent « S'ils ne peuvent être justes envers leurs coreligionnaires, comment ces musulmans pourront-ils être justes envers les suivants des autres religions ?» C'est là un très grand malheur. Les musulmans eux-mêmes sont en train de ternir l'image de l'islam par leurs actions. Les dirigeants lèsent les droits des populations et ces populations se sont soulevées contre l'État. Des villes tout entières ont été la cible d'exactions et sont détruites. Des prétendus groupes islamiques sont en train de tuer d'autres musulmans. Et ils viennent dans ces pays occidentaux pour commettre des atrocités. Et pour se justifier, ils avancent que les Occidentaux sont en train de tuer des musulmans et que de ce fait, eux, les musulmans, ont le droit d'utiliser la force. Or, des musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans, avec l'aide des non-musulmans, bien sûr. Quelques jours auparavant, les groupes extrémistes qui mènent des attaques ici et là, dans les pays occidentaux, ont présenté leur nouveau plan. Ils ont déclaré qu'à présent, en Europe, ils vont se prendre à des enfants et ils vont tuer ces enfants devant leurs parents, car ces pays occidentaux sont en train de bombarder les villes musulmanes et ils sont en train de tuer nos enfants musulmans. Or, ces bombardements ont lieu avec l'aval des dirigeants musulmans. Cette inimitié entre les peuples va s'accroître en engendrant d'autres inimitiés et d'autres hostilités, et cela ne va pas s'arrêter là. C'est pour cette raison qu'Allah affirme qu'il ne faut pas laisser l'inimitié d'un peuple vous pousser à être injuste. Il faudra en toute situation faire preuve d'équité. C'est en raison de ce manque de justice que ces exactions ont pris de l'ampleur. Les non-musulmans nous critiquent parce que les actions des musulmans sont contraires aux préceptes de l'islam. Les musulmans auraient dû servir d'exemple, ils auraient dû présenter au monde les beaux enseignements de l'islam, ils auraient dû prêcher le message de l'islam. Or ici nous voyons le contraire. On ne voit rien d'autre que des atrocités dans les pays musulmans. C'est en présentant les beaux aspects des préceptes de l'islam que l'on pourra témoigner en faveur de l'islam ou en faveur d'Allah l'exalté. Voyez cet enseignement sublime du Saint-Coran. L'hostilité d'un peuple ne doit pas vous contraindre à être injuste. Aucune autre écriture religieuse ne présente pareil enseignement dans le monde. Il n'y a aucune distinction dans l'application de la justice. Musulmans et non-musulmans sont tous les deux égaux quand il s'agit de faire preuve d'équité, voire il faut même être équitable envers ses ennemis, et il faudra être très vigilant à cet égard. C'est là un bel enseignement, mais malheureusement, en dépit de son existence, les actions des musulmans sont en train de ternir l'islam dans le monde non islamique. Les musulmans ordinaires, les oulémas, ainsi que les dirigeants musulmans sont coupables de ces actions. et leurs actions nous imposent la responsabilité de présenter au monde nos exemples et de faire comprendre au monde que l'islam prône un tel degré de justice que l'on pourra établir la paix dans le monde à travers les enseignements de l'islam. Je vous présente quelques exemples de la rigueur avec laquelle le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ses compagnons à ce sujet. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelques musulmans à la Mecque pour recueillir des renseignements. Les musulmans étaient en grand danger à l'époque et les musulmans pouvaient subir une attaque ennemie à n'importe quel moment. Ils étaient toujours en danger à n'importe quel moment. Ses compagnons sont partis en mission et lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, ils ont rencontré quelques ennemis dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Les musulmans se sont dit que ces témoins vont informer les autres de leur présence s'ils les laissent partir et qu'ils seront tués en fin de compte. C'est ainsi que ces musulmans se sont attaqués à ces mécréants en premier et lors de l'assaut, ils ont tué un ou deux de ces mécréants. Ses compagnons sont ensuite retournés à Médine et ils ont été poursuivis par quelqu'un de la Mecque qui a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ces musulmans avaient tué deux Mécois dans l'enceinte de la Mecque. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répliqué que les Mécois, les mécréants dans le passé ont commis tant d'exactions et qu'ils ne devaient pas se plaindre si on leur rend l'appareil. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris des mesures adéquates immédiatement en répondant qu'ils ont été certes lésés et qu'ils ont été traités injustement. Il se peut que les mécréants ne se soient pas défendus parce qu'ils étaient dans l'enceinte de la Kaaba. En accord aux traditions arabes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a payé le prix du sang pour les deux tués et il a sévèrement réprimandé ses compagnons. Il les a condamnés pour leur excès de conduite. Selon un autre récit, les compagnons auraient tué une femme par mégarde lors d'une bataille. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très en colère contre ses compagnons lorsqu'il en a eu connaissance. Jamais pareille colère n'avait empourpré son visage, disent les rapports. En dépit du fait que c'était une erreur de la part des compagnons, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était fort peiné. Il était fort peiné parce que la justice a été bafouée. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait preuve d'une grande équité en jugeant indifférent entre un juif et un musulman. Selon les récits, un musulman devait 4 dirhams à un juif et le délai du paiement avait expiré. Le juif s'en est allé se plaindre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que le musulman ne lui avait pas remboursé son dû. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir ce compagnon qui se nommait Abdullah et il lui a sommé de rembourser ce qu'il devait au juif. Abdullah a expliqué « Au prophète d'Allah, je jure par celui qui vous a envoyé, je n'ai pas les moyens de rembourser cette dette. Je lui dois de l'argent, certes, mais je n'ai pas les moyens de le rembourser. » Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a insisté en lui demandant de rembourser le juif. Abdullah a offert la même réponse. Il lui a dit que « J'ai promis au juif de le rembourser » lorsque je recevrai ma part des butins après que vous nous ayez envoyé à Khaybar. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté en disant rembourse-le. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait une parole à trois reprises, eh bien celle-ci avait valeur de verdict final. Abdullah portait un tissu en guise de pagne, ainsi qu'un turban à la tête. Il est parti au marché, il a enlevé son turban pour se couvrir, et ainsi il a vendu son pagne pour 4 dirhams. C'est ainsi qu'il a en remboursé sa dette. Ceci est la norme que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi. Il n'a pas demandé aux juifs d'accorder à son débiteur un délai en accord à son souhait. Il a demandé à son compagnon, le débiteur, de rembourser la dette immédiatement, et c'est pour cette raison que l'autre a vendu son vêtement. C'est là la norme de la justice que nous devrons respecter à tous les niveaux. Ce faisant, nous serons parmi les véritables disciples du serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous accomplirons ainsi le but de son avènement. Le Messie premier, l'Islam, a été suscité afin de faire connaître au monde les enseignements de l'Islam et sa beauté, permettant ainsi au plus grand nombre de se réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons accomplir cette mission lorsque nous guiderons le monde sincèrement et quand, en toute sincérité, nous allons appliquer les préceptes de nos enseignements. Ainsi donc, dans le verset de la sourate Al-A'raf que j'ai cité, Allah enjoint le même conseil en ces termes. La traduction de ce verset est comme suit. « Et parmi ceux que nous avons créés, il y avait un groupe qui guide les hommes par la vérité et qui par la vérité exerce la justice. De tout temps, ce sont ceux qui ont recours à la vérité et à la justice qui accordent la direction aux autres. Aujourd'hui, ceux qui auront du succès sont ceux qui guideront autrui avec la vérité. Ceux qui respecteront les exigences de la justice vont guider autrui vers la vérité. Tant que l'on n'est pas soi-même guidé, comment pourra-t-on guider autrui? Tant que l'on n'est pas juste soi-même, comment pourra-t-on faire preuve de justice à l'égard d'autrui? Si nous souhaitons respecter le serment d'allégeance prêté au Messie premier des salams, si nous souhaitons compléter sa mission, si nous souhaitons transmettre comme il se doit le message de l'islam, nous allons devoir adopter toutes les vertus préconisées par l'islam, les vertus préconisées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Messie promis alayhi salam. Nous allons devoir suivre ces préceptes en accord à ces principes. Si nos témoignages ne sont pas en accord à la vérité et à la justice, si nos relations familiales et sociétales ne sont pas en accord aux injonctions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nos cœurs ne sont pas vides de rancœur envers nos ennemis, eh bien en ce cas, ne réformeront pas les autres, ne pourront pas guider les autres vers la vérité. Les gens, en voyant notre état et en voyant le degré de justice dont nous faisons preuve, nous diront en premier, réformez-vous en premier, établissez la justice dans votre société d'abord, avant de venir nous faire la morale. Une grande responsabilité incombe donc à chaque Ahmadi. Cette responsabilité, c'est d'ouvrir les voies pour l'établir en faisant preuve d'une grande exemplarité dans nos actes. Lorsque les gens verront nos actes, ils écouteront notre message. et ils apprendront également au sujet de l'islam après avoir été impressionnés par nos actions. Et ils apprendront au sujet de la beauté des enseignements de l'islam. Qu'Allah fasse qu'en suivant ses commandements, nous puissions nous réformer et que nous soyons à la hauteur de la baïra que nous avons prêtée aux mains du Messie premier l'islam, que nous puissions établir un exemple de réforme et de justice pour les autres. Après la prière, je vais diriger une prière funéraire en l'absence du corps du défunt. Il s'agit de la prière funéraire de Hassan Mohamed Khan Arif, qui était le fils de Faisal Mohamed Khan Saheb Shimlavi. Hassan Mohamed Arif Khan était l'ex-naïb Wakil al-Tabshir de Rabwa et il a aussi servi en tant qu'éditeur du journal de l'Ahmadiyya Gazette du Canada. Il est décédé le 3 novembre à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du système d'Al-Wasiyya du Testament. Hassan Mohamed Khan Arif est né le 26 janvier 1920 à Jalandhar. Son père, Faisal Mohamed Khan, a eu l'opportunité de faire la baïra en 1915 sur la main du deuxième calife. Le père du défunt a travaillé pendant 35 ans en tant que fonctionnaire et il a pris sa retraite en tant qu'adjoint du conseiller financier. Il avait un grand engouement pour l'établir. Deux Anglais se sont convertis à l'islam par son entremise. Et de nombreuses autres personnes ont accepté l'Ahmadiyya grâce à lui. Le défunt, quant à lui, avait fait sa licence. Il avait rejoint la fonction publique. Ensuite, à la demande du deuxième calife, il avait donc fait sa licence et par la suite, il a fait son master à Rabwa. En 1943, lorsque le deuxième calife était parti à Delhi, Hassan Mohamed Khan Arif a décidé de dédier sa vie. Il était en train de servir dans un département du gouvernement indien. Lorsque le défunt Mohamed Khan Arif a informé son père qu'il voulait se dédier, son père était très content et lui a dit ceci. « Tu vas dédier ta vie, mais ne crois pas que tu vas mener une vie de confort. Si tu veux dédier ta vie comme il se doit, alors sache que c'est une route pleine d'épines. Tu ne vas pas mener une vie de prince. Tu vas devoir mener une vie très simple. » Son père lui a dit aussi que l'allocation qui te sera accordée sera nettement inférieure à ce que tu gagnes comme salaire aujourd'hui et tu vas devoir te débrouiller avec cette somme modique. Sur ce, il a accompagné son père et il s'est présenté au deuxième calife. Le deuxième calife lui a demandé de compléter d'abord sa licence avant de dédier sa vie. Ainsi, en 1945, il a complété sa licence et a informé le deuxième calife qui lui a demandé de se présenter sur le champ. Suite à cela, le défunt est parti au centre. Il a démissionné du gouvernement et ainsi, il a été nommé Naib Wakil al-Tijarat dans un premier temps. Ensuite, après la partition de l'Inde, Hassan Mohamed Khan Arif, le défunt, a demandé qu'il serve en tant que darvish akkadian de manière permanente. Le deuxième calife a accepté cette demande, mais après quelque temps, il l'a fait venir au Pakistan afin de servir au centre. Ainsi donc, il a servi en tant que Naib Wakil al-Tijarat. Ensuite, il a été responsable du bureau de la Furqan Force. Et en 1951, il a été affecté à la Wakalat Tabshir. Ensuite, lors des émeutes de 1953, au Punjab, la police a fait une perquisition dans le bureau du Tahrik-e-Jadid. À cette occasion, Hassan Mohamed Arif a été arrêté car il recevait des comptes rendus des activités du monde entier et il écrivait des lettres aux missionnaires. Après l'instauration de la loi martiale, il a été libéré. Ainsi, Allah l'Exalté lui a également accordé la faveur d'être un prisonnier dans son chemin. Il a aussi été responsable du bureau du comité sur les logements. Il a servi dans la Wakalat Tabshir et il a servi en tant qu'adjoint du Wakalat Tabshir pendant 30 ans. Il a occupé plusieurs postes aussi dans différents bureaux. Il a été Wakil Diwan, il a été Wakil Talim, Wakil Zirat et Wakil Mal et l'officier de la Mana. Il a pris sa retraite en 1981. Ensuite, il est parti au Canada. Là-bas, il a servi en tant qu'éditeur de l'Ahmadiyya Gazette. Il a eu l'occasion de servir à ce poste pendant 26 ans jusqu'en 2006. Il était un des premiers à faire la wasiya, son numéro est 5745. Il était aussi parmi les premiers en ce qui concerne le fonds Tahrik Jadid et il était le numéro 151 à l'époque. En 1978, il a écrit un ouvrage en langue ourdou sur le Saint-Suaire de Turin. Il avait également commencé à écrire cet ouvrage en langue anglaise. Il avait un très bon niveau, mais le troisième calife lui a demandé de l'écrire en langue ourdou, car ce serait le premier livre en langue ourdou sur le Saint-Suaire de Jésus. Il a écrit d'autres ouvrages pour des enfants. Il avait écrit un ouvrage sur les prophéties du Messie promis alayhi salam et sur Sidna Bilal. Le défunt s'était marié en 1944 avec Sayyida Akhtar Faizi Sahiba, qui était la fille de Fazlur Rahman Faizi. De cette union, il a eu 4 garçons et 2 filles. Ses enfants sont aux États-Unis et au Canada. Sa bru, la femme de Farid Ahmad Arif, écrit ceci. Le défunt accomplissait régulièrement la prière tahajjud. Il priait avec une réelle inquiétude et douleur. Il avait un grand amour pour le califa. Il éprouvait une grande obéissance à son égard. Après le décès de mon beau-père, j'ai su qu'au Pakistan, il venait en aide à des veuves et à des orphelins régulièrement. L'amir Seb du Canada écrit, il y a de nombreux sikhs dans le quartier où habitait le défunt. Et en raison de leur amitié avec les sikhs l'ont nommé le président de l'association culturelle des sikhs. Et ils avaient beaucoup insisté pour qu'il serve à ce poste. Le défunt ne pouvait pas conduire, mais malgré ce fait, il venait à la prière du vendredi de Brampton. Pour ce faire, il changeait 2 ou 3 bus pour arriver jusqu'à la mosquée. L'un des adjoints de l'amir a écrit que, après s'être établi au Canada, le défunt a rehaussé le niveau de l'Ahmadiyya Gazette. Et cela était une fierté. Il avait une grande foi dans l'institution du califat. Il avait un très grand amour pour le califat. Moi-même, je le connaissais depuis mon enfance. Mais après avoir été élu calife, j'ai vu un grand changement dans son comportement à mon égard et j'en fus fort surpris. Il n'avait pas d'ordinateur au tout début et il écrivait la partie ourdou de l'Ahmadiyya Gazette à la main et il tapait la partie anglaise à la machine. Il traduisait aussi les sermons du calife en langue anglaise et il relisait sa traduction à maintes reprises et tant qu'il n'était pas satisfait, il ne publiait pas cela dans l'Ahmadiyya Gazette. Il avait une très bonne mémoire, il avait une très bonne culture de l'histoire de l'islam. Il avait toujours un livre dans la main. Il lisait toujours un livre ou une revue. Il aimait la lecture et il racontait souvent les anecdotes des compagnons, des anecdotes qui consolident la foi. Quelqu'un a écrit « À mon époque, toutes les pages de l'Ahmadiyya Gazette étaient pleines d'anecdotes consolidant la foi, provenant de l'ouvrage Milkatul Yakin du premier calife. C'était des récits qui étaient publiés en langue ourdou et en langue anglaise. » qu'Allah fasse preuve de pardon à l'égard du défunt, qu'il exalte son statut et qu'il fasse que ses enfants et sa progéniture puissent établir une relation solide avec le califat et la Jamaat Ahmadiyya.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.